Bonjour à tous.
Ceux qui sont fans de films de Noël sont actuellement comblés. En cette période de l'Avent, on peut voir beaucoup de films racontant de belles histoires, se passant dans un cadre laissant rêver, où la vie paraît tellement plus simple et plus belle, et où le dénouement est toujours heureux. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'ai jamais vu de feuilleton de Noël se terminant mal. Dans ces films, de temps en temps, le personnage principal a même la possibilité de voyager dans le passé pour corriger ce qui doit être corrigé afin que le présent soit plus agréable à vivre. Et je me suis surpris cette année à en apprécier l'un ou l'autre. Mais au fond, c'est quoi Noël? Qu'est-ce que l'on fête? Est-ce une simple période de la fin de l'année où l'on apprécie de se retrouver avec nos amis, en famille, de pouvoir partager de bons moments ensemble? Certainement. Mais Noël, c'est plus que cela. Et durant cette période de l'Avent, nous aurons l'occasion, lors des dimanches, d'ouvrir la Bible ensemble pour voir ce qu'elle a à nous dire sur Noël et sur la naissance de Jésus-Christ. Et ce matin, je vous propose tout simplement d'ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 15 à 20. Colossiens, chapitre 1, les versets 15 à 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. L'apôtre Paul écrit ici à l'église de Colosse, qui se situe dans l'actuelle Turquie. Et cette église n'a pas été fondée par lui, mais par un de ses compagnons qui s'appelle Épaphras, et qui lui raconte comment cette église grandit et à quelle situation difficile elle doit faire face. Paul prend alors le temps d'écrire à cette église pour les encourager à garder leur foi enracinée en Jésus-Christ. Et après ces salutations et une prière de reconnaissance pour cette église, eh bien nous trouvons dans l'Épître aux Colossiens cet hymne qui met un coup de projecteur sur Jésus-Christ, qui nous permet à nous aussi, chrétiens du XXIe siècle, de nous fortifier dans notre foi et de découvrir ou de redécouvrir qui est Jésus-Christ. Et au fond, pourquoi Jésus est venu sur terre et pourquoi nous nous préparons à fêter sa naissance à Noël. Et le premier point que je souhaite voir avec vous ce matin, c'est que Jésus est le premier en tout. Et dans cette partie de l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul fait une pause et décrit qui est Jésus-Christ. Dans la période de l'Avent où l'on se prépare à fêter Noël, ce texte est intéressant car il nous rappelle qui est Jésus-Christ, ce roi qui vient pour servir. Et dans cette première partie, nous ne verrons pas tout en détail, mais je te souhaiterais simplement m'arrêter sur quelques points. Et l'apôtre Paul commence par le décrire comme l'image du Dieu invisible. Cela signifie deux choses. Que Jésus-Christ est venu pour nous montrer qui est Dieu et comment il est. Mais cela signifie aussi que Jésus est de nature divine, qu'il est lui-même Dieu. C'est pour nous faire connaître Dieu que Jésus est venu à notre rencontre en revêtant notre humanité. Et c'est ce que Jean exprime dans le premier chapitre de son évangile. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Alors pour faire simple, Jésus rend visible le Dieu invisible et veut que nous puissions comprendre qui il est. Jésus rend visible le Dieu invisible et veut que nous puissions comprendre qui il est. Et Jésus a d'ailleurs expliqué à Thomas, à l'un de ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». La venue de Jésus était la seule solution pour nous de voir Dieu, car Dieu lui-même avait dit à Moïse « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre ». Ainsi donc, il est impossible, tant que l'on reste dans notre corps terrestre, de voir Dieu face à face au risque de mourir. La seule solution que Dieu avait pour se montrer tel qu'il est sans que nous mourions était donc d'envoyer son Fils unique pour se présenter à nous. Jésus est également décrit comme le premier-né de toute la création. Alors, le premier-né dans une famille juive bénéficiait d'un statut supérieur. Il recevait la bénédiction du Père, le droit d'aînesse, avec tout l'héritage qui allait avec. Il était à respecter comme le chef de sa fratrie. Et la Bible appelle Israël le premier-né de Dieu. David et Éphraïm, dans la Bible, sont également appelés le premier-né. Les chrétiens sont également appelés premier-nés. Or, Israël n'était pas la première d'entre les nations. David était le 8e fils de sa famille et Éphraïm était le 2e fils de Joseph. Cela signifie que le terme « premier-né » ne fait pas ici, dans ce texte de Colossiens, référence à une référence chronologique, mais il fait mention à un privilège. Le terme « premier-né » ici ne signifie pas que Jésus a été la première créature de Dieu, mais il signifie que Jésus-Christ a un statut particulier qui possède tout l'honneur, tout le prestige, toute la gloire. Il détient toute priorité, toute domination, toute autorité de par sa nature divine. Il est donc supérieur à toute la création et à toutes ses créatures. Et si on relit dans le texte que nous avons déjà lu ce matin, « En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. » Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Par là, Paul montre qui est Jésus-Christ. À l'origine de toute la création, tout lui est soumis. Que ce soit les plus grandes institutions et personnes de l'univers, les puissances sur la terre, les armées célestes, les puissances invisibles. Non seulement tout a été créé par Jésus, mais tout subsiste grâce à lui. Il est aussi la tête de son peuple, de ses élus, par l'intermédiaire de l'Église. Jésus ne fut pas la première personne a ressuscité d'entre les morts. Élie avait ressuscité le fils de la veuve de Sarepta, dans la Bible, on peut le voir dans 1 Roi, et Élisée le fils de la femme sunamite. Un homme jeté sur la tombe d'Élisée revint à la vie, c'est un passage qui se situe dans 2 Rois, et Jésus ressuscita la fille de Jaïrus, le fils d'une veuve de Nain, et Lazare. Mais sans être le premier à ressusciter, Jésus fut bien le plus important d'entre eux. C'est dans ce sens qu'il est le premier-né des morts, parce qu'il fut ressuscité pour ne jamais mourir, et sa résurrection ouvre la porte de la vie éternelle pour tous ses disciples. Ainsi, la suprématie de Jésus est démontrée dans ce passage. Jésus est le premier en tout, en qui tout subsiste. Les fans d'astronomie connaissent certainement l'étoile Antarès. Et quand on regarde un petit peu ses caractéristiques, ça donne simplement le vertige. Elle est 400 fois plus grande que le Soleil. 10 000 fois plus brillante. Elle est située à environ 500 années-lumière de la Terre. Difficile de s'imaginer cela depuis notre chaise. Cela met en perspective la grandeur de l'univers qui nous dépasse totalement et la grandeur de son créateur et sa puissance. Mais celui qui a créé Antarès est venu sur la Terre et s'est approché de nous. C'est ce que nous dit entre autres ce texte de Colossiens. Celui qui a créé Antarès se soucie de chacun d'entre nous. Celui qui a créé Antarès est venu sur Terre, non pas pour montrer sa supériorité pour nous écraser, mais comme un roi qui sert ses créatures. Et l'Épître aux Hébreux nous dit de lui, et nous l'avons vu ce matin, « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert, et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Et le deuxième point que je souhaiterais voir avec vous ce matin, c'est que Jésus est venu pour tout réconcilier avec Dieu. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Qui dit réconciliation, dit qu'il y a séparation, désaccord ou alors conflit. Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. La Bible est très claire à ce sujet, et le péché nous sépare de Dieu. Le péché, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la violation de la loi. C'est ce que nous rappelle la première épître de Jean. C'est tout simplement enfreindre la loi de Dieu. Et la Bible nous le rappelle, le salaire du péché, c'est la mort. Le constat que Dieu fait sur l'homme est sans appel. Le péché habite l'homme. Et cela commence par le récit de la chute, dans le premier livre de la Bible. La Genèse. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et leur avait remis toutes choses dans ses mains. Il leur a dit la chose suivante, « Mange librement des fruits de tout arbre du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et sous l'influence du serpent, qui n'est autre que le diable, l'homme a décidé de ne pas obéir à Dieu. Il a voulu prendre son indépendance et s'est affranchi des règles données par Dieu. Et le péché est entré dans le monde. Et David, roi d'Israël, fera cette triste constatation. « Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis que ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. » Aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder autour de nous de quoi l'homme est fait. Tromperie, médisance, passion de l'argent, meurtre, viol, etc. L'actualité est remplie de ce genre de faits qui deviennent quotidiens. Nous pouvons avoir beaucoup de tromperies, de jalousies, de coups bas autour de nous, que ce soit dans la vie de tous les jours, au travail ou ailleurs, au point que parfois, malheureusement, on n'y prête presque plus forcément attention. Le problème, nous rappelle Paul, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation définitive avec Dieu, avec ce Dieu saint qui ne peut pas supporter le moindre péché. Et ce qui nous attend, en tant que pécheurs, c'est une perdition éternelle, une séparation avec Dieu. Nous sommes donc, dès notre conception, dans le ventre de notre mère, alors que nous ne sommes même pas encore nés, pécheurs et séparés de Dieu. Voilà la triste nouvelle, le triste constat que nous pouvons faire. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. Ce Dieu saint qui est notre Créateur a voulu tout réconcilier avec lui. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Alors comment concilier le fait qu'un Dieu saint puisse être approché de nous, hommes pécheurs? Il a alors envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, parfait, sans péché, prendre nos péchés à notre place et mourir sur la croix. sur cette croix où finalement nous aurions dû être. Le sang de Christ a coulé pour nous laver de nos péchés, car il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Le sang de Christ ayant coulé, le problème du péché peut être résolu. Dieu a été satisfait. Et pendant plusieurs heures, lorsque les ténèbres ont recouvert la terre, Jésus a vécu l'abandon total de son Père. Il a vécu la séparation avec Dieu, celle que nous devrions vivre comme salaire du péché. Jésus s'est substitué à nous pour que nous puissions de nouveau vivre une relation avec notre Créateur. Ainsi, ma réconciliation avec Dieu, la vie éternelle, je puis l'obtenir uniquement avec ce cadeau que je n'ai qu'à accepter. La grâce que Dieu m'offre. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le verset ne s'arrête pas là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus a pardonné à la femme adultère. Il a pardonné à un brigand crucifié à ses côtés. À un disciple qui avait nié le connaître. À un dénommé Saul qui avait pris du galon en persécutant les chrétiens. La grâce est absolue, universelle. Dieu l'a même étendue à ceux qui l'ont cloué sur la croix, puisqu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà l'exemple de service, de don de soi, de Jésus, que Jésus qui est le premier en tout nous a montré. Voilà pourquoi on fête la naissance de Jésus à Noël. Dieu fait homme, venu pour nous sauver et nous réconcilier avec Dieu, pour une vie éternelle de bonheur et de grâce. Nous avons vu ce matin des vérités essentielles quant à la personne de Jésus-Christ. Jésus est l'image de Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout se tient en lui. Il est la tête de l'Église. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. En lui habite toute la plénitude, et par lui, Dieu réconcilie tout avec lui-même. Par lui, Dieu a fait la paix par le sang de la croix. Jésus est venu à notre rencontre, il a revêtu notre humanité. Et nous a montré l'exemple parfait de service qui nous invite maintenant, nous aussi, à reproduire en nous mettant au service les uns des autres et de notre prochain. Et pour le prochain message que nous verrons de l'avant, nous verrons que Jésus est un roi tout petit et immense. Amen.